d'ailleurs, c'était une si belle intuition, celle de Pierre Nora, que d'autres pays ont proposé leur propre lieu de mémoire, de l'Allemagne, de la Russie, même du Luxembourg, etc.
Pascal Horry, vous avez vous-même un rapport particulier avec cette mémoire. Déjà, depuis 2024, vous assurez la direction scientifique de France Mémoire, si je ne me trompe pas, donc la mission des commémorations nationales, confiée à l'Institut de France. Vous avez également été, pendant une vingtaine d'années, membre du Haut Comité des commémorations nationales, si je ne m'abuse, d'où vous avez démissionné.
Alors tout ça est lié dans la mesure où,
voilà.
Au départ, on m'a demandé de participer au comité des célébrations nationales, avec justement Pierre Nora, à un certain moment, Jean-Noël Jeannet, etc. Dès le début, Jean-Noël Jeannet et moi, nous avons dit, objection, pour nous, notre travail est un travail de commémoration, pas fatalement de célébration. C'est important de commémorer la Saint-Barthélemy, ou la lutte contre l'hérésie cathare, on ne va pas forcément célébrer, chacun choisira, justement. Et malgré tout, l'État, sourd à nos remarques, a conservé le mot « célébration ». Ce qui fait qu'un jour, il s'agissait de Louis-Ferdinand Céline, il y a eu explosion, et le travail que nous avions fait depuis des années, très rigoureux, très érudit, de préparation en direction des médias, des collectivités locales, de la société civile, comme on dit beaucoup aujourd'hui, destiné à les informer sur ce qu'il y a derrière un personnage, un événement, etc., se trouvait pratiquement ruiné par cette polémique. Alors, nous avons posé comme condition que si on voulait qu'on continuât, Jean-Noël, moi et tant d'autres, à figurer dans ce haut comité, c'était le ministère de la Culture qui était la structure d'accueil, pourquoi pas, eh bien ce soit désormais un haut comité des commémorations nationales. Et là, il est évident qu'on peut commémorer, y compris les fameuses pages noires d'une société. C'est même, à mon avis, indispensable d'aller dans cette direction. Quand j'ai travaillé sur la collaboration, c'était ça, évidemment. Simplement, il y a eu une nouvelle épreuve, c'est là que nous avons tous démissionné, quand même le savoir, tous démissionné, donc le Haut Comité s'est arrêté là, parce que le ministère de la Culture n'a pas su gérer, comme on dit aujourd'hui, une autre commémoration, même la commémoration, qui était celle de Maurras. Or, pour nous, il est évident que Charles Maurras avait joué un rôle essentiel dans l'histoire française et qu'on n'allait pas, comme les staliniens avec Trotsky, le rayer de l'image. Et là, nous avons décidé de démissionner, exit le ministère de la Culture.
Et j'en ai conclu Charles Maurras, qui a quand même un profil sulfureux, académicien, oui, directeur de l'Action française, antisémite, anti-Dreyfusard.
Mais qui fait partie de l'histoire française. Si vous éradiquez les antisémites...
oui, oui.
Bon. Non, ça fait partie de l'histoire de
Et vous avez donc effectivement démissionné pour défendre, en fait, la mémoire de Charles Maurras.
Non, pas du tout. Pour défendre la liberté académique dont on parle tellement en ce moment à propos des woke, etc. Non, pour défendre la liberté académique, à savoir que si on commence à supprimer Maurras des commémorations, la commémoration n'a plus aucun sens.
Non, alors, enfin, pour défendre sa commémoration.
Oui, aussi, mais qui n'est pas la célébration.
Oui.
Ah, bah oui, mais les mots
mémoire,
ont du sens.
Hein. Oui, mais là c'est le mot mémoire, hein, cher Pascal Horry,
oui,
qui
sûr.
Est plus proche de commémoration que...
Oui, mais justement, mais commémoration...
Que la célébration.
Oui, mais ça résout le problème. Donc, aujourd'hui, je me félicite de me retrouver comme simple, si j'ose dire, directeur scientifique de France Mémoire, issu de l'Institut de France, parce que ça se passe très bien, que c'est confédéral, que c'est collégial, et que nous ne nous heurtons plus à ce genre de contradiction interne qui montre bien que le pouvoir politique est quand même très souvent le plus mauvais juge de ces affaires-là. Et heureusement, là, vous avez des savants qui se réunissent entre eux et qui ne se précipitent pas tête baissée dans tous les pièges qu'on leur tend.
Et vous, personnellement, sur cette mémoire, peut-on oublier, doit-on oublier? Ah, et pardonner, oui, mais oublier, non.
Bah oui, voilà, mais c'est la réponse.
C'est ça la réponse.
Bah, évidemment, le pardon, là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la logique du mea culpa, mais moi, en tant qu'historien, j'observe. J'observe, par exemple, effectivement, la tendance au mea culpa. Ça me paraît intéressant pour éclairer une société, mais je n'ai pas à avoir de jugement de valeur positif ou négatif là-dessus.
Allez, on passe du jugement de valeur à... Ah bah, regardez. Le mot sainte. Nous y sommes. Vous voyez tout à fait à quoi je fais illusion, cher Pascal Oury.
Oui,
c'était un mot proche de celui proposé à Frédéric Vitou, qui vous a succédé à cette place d'ailleurs. Je lui avais proposé le mot saint. Pas pour les mêmes raisons. Pour vous, évidemment, je pense à votre livre « Jouir comme une sainte » et autres voluptés. Et je crois que c'est d'ailleurs Sainte Thérèse, l'extase de Sainte Thérèse, qui vous a inspiré ce titre.
J'ai répondu à une demande des éditions du Mercure de France à écrire un texte autobiographique. La collection s'appelle « 13 et portraits ». Autobiographique, c'est déjà assez gênant pour un, entre guillemets, savant, ou hein, je mets des guillemets, pour un historien qui devrait ne pas dire « je ». J'ai trouvé la solution, à savoir que je pouvais m'autoriser cette autobiographie parce que j'allais, en quelque sorte, prendre un objet, qui est tout simplement une œuvre d'art, pour moi, grandiose, pour essayer... De l'analyser en fonction de ma propre culture d'historien et de ma propre expérience de jeune Français né en 1948, etc. Et l'extase de Sainte Thérèse d'Avila du cavalier Bernin, dans une chapelle de l'église Sainte-Marie de la Victoire, j'explique d'ailleurs au passage, parce que personne ne le fait, pourquoi c'est Sainte-Marie de la Victoire, quelle victoire, etc. Bref, il y a une expertise d'historien, mais c'est pas ça le fond de l'objet, c'est que je parle de mon père, de ma sœur, de Rennes, ma ville quasi natale, la ville où j'ai grandi, etc. De mon rapport au libido, celle de Saint-Augustin comme les autres, ce qui est dit sans doute, mais toutes les formes de libido, un rapport à l'art, puisqu'il s'agit d'une œuvre d'art, un rapport aussi à la sexualité. Et je vais relativement loin. On a compris que quand je parle d'une sainte qui jouit, je parle de moi.
Pourquoi une sainte ?
Mais non, mais simplement parce qu'il s'agit d'une sainte et que la distance avec le saint et avec l'homme qui n'est pas saint et qui n'est pas non plus une femme saute aux yeux. C'est-à-dire que le lecteur peut comprendre la part d'ironie qu'il y a dans tout ça.
Votre rapport aux femmes, aux saintes, est-ce qu'elles vous entourent ? En tout cas...
Oui, et alors je précise tout de suite qu'une des raisons explicites, mais il y avait plus profond, de mon éloignement à l'égard de la religion, qui était la religion catholique, parce que si je me suis dit, vers l'âge de 18 ans, athée, il faut préciser qu'on est tous et toutes, quand on est athée, athée de culture ceci ou de culture cela. Je suis athée, au moment où je vous parle, de culture catholique. J'aurais certainement un raisonnement différent si j'étais un athée de culture protestante, juive, etc. Bon. Et je me souviens que j'étais en train de devenir protestant sans le savoir, mais j'ai brûlé l'étape et je suis devenu tout de suite athée parce que assez tôt, à l'époque où j'étais encore un catholique bon teint, je considérais que le culte des saints, le culte de la Vierge, ça m'éloignait de ce qui était fondamental pour moi, le monothéisme. Bon, donc je partageais des hypothèses qu'on va retrouver en particulier dans certains mouvements au moins radicaux de la Réforme. Donc, saint ou sainte, pour moi, c'était déjà quelque chose qui m'éloignait d'un a priori monothéiste. Mais les saintes sont fascinantes. Et alors, Sainte Thérèse d'Avila est extraordinaire, parce qu'elle est, dirait-on aujourd'hui, limite. Elle est, dirait-on en franglais, borderline. Mais, premièrement, il y a Jean de la Croix. D'autre part, il y a le génie presque politique de Sainte Thérèse. Et puis le génie de l'Église catholique, qui a compris qu'il ne fallait pas la transformer en hérétique, c'est un peu comme François d'Assise, mais qu'il valait mieux la mettre sur les autels. Elle a été mise sur les autels assez vite, c'est ça qui est impressionnant. Et là, je dis respect à l'Église catholique.
Quel a été votre point de rupture lorsque vous avez renoncé finalement à votre foi, votre catholicisme ?
Ça s'est fait sans grand drame, mais pour la raison que j'ai déjà exposée, et ça s'est traduit par justement la fin de la fréquentation des cérémonies catholiques.
Et peut-être le début de fréquentation des femmes aussi. Est-ce qu'il y a un point commun avec votre père?
Ça avait commencé avant.
Oui.
Ça avait commencé avant, mais bien entendu, ça. Bon, je ne vais pas établir, ou alors peut-être que vous allez m'amener plus tard, quand cette émission sera terminée, à réfléchir aux liens qu'il y aurait entre l'éloignement de l'Église catholique et le rapprochement des femmes. Je n'y avais jamais pensé. Mais oui, peut-être. Je pense quand même que, alors, de même qu'il y a des cultures religieuses dominantes, que, puisqu'on parle de la nation, qu'on en a parlé tout à l'heure, peut-être qu'on va continuer à en parler jusqu'à la fin de cette émission, eh bien, je pense que les nations s'interprètent entre autres par la culture religieuse dominante, je dis bien dominante, c'est-à-dire que si vous êtes un citoyen américain d'aujourd'hui, vous êtes forcément quelque part protestant. Alors que par ailleurs, vous êtes juif, catholique, non. Mais l'ensemble des institutions, des valeurs, le rapport à l'économie, le rapport aux politiques, bon, sont fondamentalement protestants. Puisque je suis français, même si j'étais par ailleurs juif, etc., je serais quelque part forcément catholique. Par les valeurs, le rapport à l'économie et le rapport au pouvoir sont très précisément catholiques en France, et il faut l'assumer. Donc, d'une certaine façon, je ne suis pas sorti de cette dimension-là, mais j'essaye, en revanche, d'en être conscient.
Conscient. Un beau mot. Ce ne sera pas le dernier. C'est pas celui que j'ai choisi. C'est le mot, ça va peut-être nous ramener vers la nation, ou ailleurs, le mot transcendance. Quatrième et dernier mot. Pascal Horry.
Ah, je pense qu'on n'échappe pas à la transcendance. D'ailleurs, faudrait-il y échapper? Certains voudraient y échapper. Non, je pense qu'il y a des sociétés, alors réflexion d'historien, préoccupés du phénomène religieux, ça c'est vrai. Il y a des sociétés qui sont assez logiquement, pour des raisons historiques, hein, tout simplement pas philosophiques, historiques, portées à plus de transcendance, d'autres à plus d'immanence. Je pense que sur ce plan-là, il y a un abîme entre la culture chinoise standard et les cultures européennes. Ça, c'est clair. À partir de ce moment-là, le rapport à la mémoire nationale, le rapport à l'histoire avec sa grande H ne peuvent pas être les mêmes. La transcendance, peut-être que je l'ai transposée dans des engagements qu'on peut qualifier de politiques, parce qu'à peu près au moment où je me détachais de la religion, je commençais à militer politiquement. Et alors, du coup, ce rapport aux politiques est presque antithétique de ce que je disais tout à l'heure de mon athéisme, parce que là, en effet, le politique est arrivé pour m'amener à chercher des formes d'équilibre et de conciliation, sinon des extrêmes, parce que concilier les extrêmes, au fond, c'est absurde, mais de conciliation des valeurs. Et c'est pour ça que je me rappelle très bien, en 1967, c'est pas tout à fait innocent, j'ai commencé à m'auto-définir un jour au milieu de mes camarades, dans tous les sens du mot camarade, d'une certaine façon, étudiants, mais certains étaient déjà très militants, évidemment. On est à un an de 68. C'est l'époque où, dans mon université, le leader du gauchisme était un catholique de gauche qui s'appelait Jean-Yves Le Drian, etc., etc. Bon.
Président de l'UNEF.
Voilà, oui, oui. Quand je le vois, je lui rappelle toujours ce moment-là, bien sûr. Mais ça me le rend très sympathique, justement, Jean-Yves. Et je me suis défini comme social-démocrate. Et je me suis rendu compte que ça provoquait un grand blanc. Personne ne pouvait comprendre ce que ça voulait dire. Dans un pays de culture catholique, justement, la social-démocratie. La social-démocratie, c'est une expérience qui a triomphé dans les pays de culture protestante de l'Europe du Nord, comme par hasard. Mais moi, je me définissais comme social-démocrate, et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai tendance à me définir, au moment où je vous parle, encore comme social-démocrate. Ça doit être grave de ne pas bouger à ce point-là.
En tout cas, vous n'êtes pas aussi radical que vous disiez l'être, à savoir, concernant la religion, vous êtes passé du blanc au noir. Social-démocrate, c'est pas tout à fait la même chose.
Je ne sais pas si le blanc était la catholicité ou le catholicisme, et le noir, l'athéisme. Attention, là, je vous surprends.
Oui, oui. Noir ou blanc, enfin, vous avez compris. Bonnet blanc, ouais, ou blanc bonnet. Ouais. Allez, revenons sur cette transcendance, cette verticalité, la boucle est bouclée, puisqu'on avait commencé avec ces mots-là au début aussi. Cette transcendance a-t-elle besoin d'attributs comme le sacré ?
Ah, je pense que le sacré est partout. Si on considère que le sacré, alors je ne vais pas faire d'étymologie, c'est ma propre définition, c'est la définition d'un espace qui fait l'objet non seulement d'une attention généralement ritualisée, parce qu'entre parenthèses, je cite ceux, beaucoup d'historiens sont arrivés à ça, qui pensent que religio, c'est moins ce qui relie que ce qui est fondé sur la relecture du rituel. Bon, c'est ce que je pense. Il suffit de se pencher d'ailleurs vers les religions pré-chrétiennes. Le drame au moment de la naissance du christianisme, c'est que les polythéistes et les chrétiens ne peuvent pas se comprendre. Les polythéistes demandent qu'on respecte les rituels de la collectivité. Les chrétiens disent, mais non, l'essentiel est ailleurs, vous n'allez pas m'obliger à faire vos singeries devant tel ou tel autel. Là, c'est ce qu'on appelle une tragédie, et ça se termine d'ailleurs en général assez mal dans ces cas-là. Bon, donc, je pense qu'il y a effectivement des rapports à la transcendance ou à l'immanence, parce qu'il faut penser à ce moment-là à l'autre solution, qui disent beaucoup d'une société. Nous sommes quand même irréductiblement des cultures spécifiques qui peuvent dialoguer entre elles, mais qui reste spécifique. C'est assez désespérant pour certains qui m'écoutent, mais je le crois profondément.
Pour parler plus personnellement, vous vous interrogez beaucoup, j'imagine. Être athée, comme vous le dites, ça veut dire ne croire en rien, finalement. L'au-delà, c'est rien.
Pas du tout.
Alors, expliquez-nous un peu sur ces questions philosophiques, ou le sens de l'existence, ou l'espérance.
Du 18e siècle, là, ou du 19e, je pense qu'on a un peu bougé depuis, quand même. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de vertigineux à supposer qu'il y a un sens de l'histoire qui sourd des collectivités humaines, mais qui n'est pas forcément un sens qui va vers le mieux, qui peut aller vers des catastrophes, qui peut aller vers... Des configurations absolument épouvantables, que ce n'est jamais complètement exclu, que jusqu'à présent, d'une certaine façon, l'humanité s'en est plutôt bien sortie que mal, mais que rien ne le dit. Prenons le cas de la démocratie, je réfléchis beaucoup, ça fait l'objet en particulier de ce tract de Gallimard là, qu'on a mentionné au début de l'émission, « Ce cher et vieux pays », je m'interroge beaucoup sur la notion de démocratie. On ne peut pas en sortir sans oublier que la démocratie, c'est la souveraineté populaire. Mais pourquoi est-ce que la souveraineté populaire irait vers, par exemple, plus de liberté ? C'est pas dans la définition. C'est pas dans la définition. La souveraineté du peuple peut produire des dictatures. C'est la souveraineté du peuple. Eh oui. La démocratie qui évite ça s'appelle la démocratie libérale. C'est une option. Mais aujourd'hui, où nous parlons, à la surface de la planète, vous avez une majorité de démocratie autoritaire, voire même, ce n'est pas un oxymore, de démocratie totalitaire. Il faut penser à ça. Et la fameuse démocratie grecque, tellement commentée à juste titre, pas simplement athénienne, elle s'est terminée comment ? Par l'effondrement de cette démocratie. On ne le dit jamais. Par la victoire de Philippe de Macédoine et plus de 2000 ans de monarchie. Voilà.
J'entends l'historien qui parle. Ma question était plus personnelle, vous n'y avez pas répondu.
Mais peut-être volontairement.
Peut-être volontairement. Entendu. Allez, je reviens auprès de vous pour la fin de l'émission, pour la conclusion. À tout de suite, Pascal Horry.
Pascal Horry, je suis de nouveau en face de vous.
C'est un plaisir pour moi de vous revoir.
Et de même, vous ne vous êtes pas complètement... dévoilé.
Certainement pas.
Certainement pas. Notamment sur vos croyances, votre foi. Vous qui vous appelez Pascal, quand même.
Ah oui. Oui. Ça, je suis assez sensible à ce prénom qui ravit tous ses amis orthodoxes ou juifs, par exemple, pour ne prendre. Et bien entendu, les chrétiens. Voilà. Non, ça, je.
Vous aimez le porter, ce nom.
Ah oui, tout à fait.
La fête de Pâques, vous la célébrez ?
Il n'y a rien, il n'y a rien. Oui, oui.
Célébrer, pas commémorer.
Ouais, ouais. Non, nous avons nos rites familiaux, ça c'est très important, qui sont d'autant plus importants qu'ils sont créés par la collectivité familiale. Et que nous avons un mois des fêtes qui commence à une date de naissance précise, qui termine avec une autre date de naissance de nos enfants.
Au sein de votre famille ? Vous avez quatre enfants.
Oui, quatre enfants. Et donc, cela dure en effet un mois. Et
avec des cousinades
oui, Et ça commence dans un lieu religieux. Ça commence avec la Sainte Lucie dans l'église luthérienne suédoise de la rue Médéric à Paris.
Et Lucie, la lumière.
Depuis la naissance de nos premiers enfants, nous nous rendons le 13 décembre à la Sainte Lucie. Et c'est le début d'un mois des fêtes parce que nous avons effectivement, bon, je ne peux pas entrer dans le détail, des anniversaires qui sont liés à ça. Donc ça commence sous le signe du religieux luthérien d'ailleurs.
Luthérien.
Le luthéranisme étant assez étranger.
Mais ça ne se termine pas forcément sous le signe du religieux, manifestement.
Non, ça, pour ce qui vous concerne. Ça se termine par un anniversaire. Et au milieu, il y a l'anniversaire de notre fils qui est né un 25 décembre.
Quand même.
Et qui se prénomme donc Candide, mais aussi Emmanuel. Ah, oui, oui.
25 décembre. Il n'y a pas de hasard, comme diraient certains.
Ah.
Vous croyez en Dieu, tout simplement ? Pas du tout. Oui, il y a quand même, je sens quelque chose chez vous. Bah, en tant qu'athée, non, normalement.
Non, mais ça, franchement... C'est pas en trois minutes que je vais répondre à cette question.
C'est comme hors caméra, vous parliez du sens de l'histoire, le sens du sens de l'histoire.
Oui.
On pourra pas résumer ça sur la fin de cette émission.
Bien sûr.
Beaucoup d'inconnus.
J'ai quelques doutes sur le sens de l'histoire, au sens où un sens qui serait en effet positif. J'ai quelques doutes.
Positif.
Un sens de l'histoire qui serait forcément positif. Pourquoi serait-il forcément positif ? D'où est-ce qu'on sort ça ? Ça nous rassure dans la grande nuit qui nous environne.
Oui, enfin.
Ah mais
les évangiles sont pas forcément rassurants.
Chacun sa lumière, même et surtout intérieure, et chacun sa nuit.
Chacun sa nuit. Et de la nuit surgit parfois la lumière.
Bien sûr. Mais il y a des formes de surgissement de lumière qui ne sont pas forcément religieuses. Bien sûr.
Votre lumière intérieure, pour terminer, ce serait laquelle ?
C'est peut-être l'histoire, quand même. Donc quelque chose influe.
Donc le mot phare. Au sens propre du mot, qui était le premier mot que je vous ai proposé.
Oui, disons-le.
Un mot qui vous définit.
Disons-le, oui. Mais il y a d'autres mots qui se bousculent juste après.
Juste après.
Ouais.
Qui l'entourent.
Qui l'entourent.
Avant de conclure, bon, je vous propose bien sûr de lire les ouvrages de Pascal Horry, mais il y en a tellement. Allez, je vous propose ces deux-là. Qu'est-ce qu'une nation, ce cher et vieux pays, c'est beaucoup plus léger, ça se lit plus vite. Qu'est-ce que vous écrivez en ce moment
pour nos lecteurs ? L'Académie prend beaucoup de temps, contrairement à ce qu'on pourrait
oui,
penser. Ça me passionne.
J'imagine.
Ça me passionne. Et du coup, j'ai un peu ralenti l'écriture d'un livre auquel je tiens, qui est un peu dans la continuité de Qu'est-ce qu'une nation ? C'est-à-dire que c'est le résultat d'environ 40 ans de séminaires et de cours, disons-le, et qui est une histoire des politiques symboliques. En d'autres termes, comment les sociétés politiques modernes, du XVIIIe siècle à ce soir, et au-delà sans doute, utilisent l'emblème, le monument et le rituel. Et donc le titre du livre est « Emblème » au singulier, « Monument, rituel ». Et je l'ai dit déjà dans cette émission, je pense que les sociétés vivent et parfois meurent du symbolique, ou d'une défaillance du symbolique. Ça, j'en suis persuadé.
On sera ravis d'en apprendre plus dans ce prochain ouvrage. Merci voilà. Infiniment.
Merci à vous.
Monsieur l'académicien Pascal Horry. Comme d'habitude, vous pouvez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse, ktotv.com. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Et encore un grand merci à notre immortel. En plus, on connaît le sens maintenant de l'origine
vous,
de ce
surtout.
Mot. Merci. Merci à vous.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Thank you.
KTO Radio.
Avec son Tédéum, Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique du roi, signe une partition considérable qui fixe un genre officiel pour un siècle. C'est le 9 septembre 1677, en la chapelle de Fontainebleau, que Lully dirige son Tédéum, composé pour le baptême de son fils aîné en présence de Louis XIV. L'œuvre est à la mesure de l'événement. Chef-d'œuvre d'architecture musicale, l'effectif imposant requiert trompettes et timbales. Le Tédéum resta l'œuvre religieuse la plus jouée de son temps, mariage princier, victoire militaire, guérison du roi. De la dizaine de représentations du Tédéum dirigées par Lully, l'histoire n'a retenu que celle de l'église des Feuillant qui causa la mort du compositeur. C'est en effet en battant la mesure, dit la légende, qu'il se perça le pied avec sa canne et mourut quelques temps plus tard de la gangrène. En 1682, le puissant archevêque de Salzbourg, primat de Germanie et prince d'un état souverain respecté de l'Europe entière, décida de fêter somptueusement les 1100 ans de la fondation de l'archevêché de Salzbourg. Pour cette occasion exceptionnelle, on travailla une décennie pour concevoir des costumes de parade d'une richesse inouïe, des vaisselles d'or et d'argent et de vermeil, tant pour les repas que pour les services religieux, les armes splendides travaillées et incrustées de pierreries, et enfin pour concevoir une cérémonie musicale d'exception pour le grand office sacré de commémoration. Salzbourg, la catholique, devait montrer sa puissance face aux États protestants qu'elle combattait. Heinrich Ignaz Franz von Bieber composa donc sa Missa Salisburgensis, qui fut si exceptionnelle qu'elle lui permit de devenir, 2 ans plus tard, le maître de chapelle de la cour. La musique écrite pour 54 voix était répartie dans l'espace en 6 chœurs. Les effets impressionnants de trompettes et percussions, marquant la solennité de la cérémonie, résonnaient ainsi splendidement dans la cathédrale. Cette musique immense n'est évidemment quasi jamais interprétée, tant elle exige d'effectifs, de temps de préparation, de précision des musiciens et du chef, mais surtout un écrin pour accueillir et magnifier cette musique spatialisée. C'est ici la basilique majeure Saint-Jean de Latran, à Rome, qui permet cette mise en espace splendide. Václav Lux, l'excellent chef de l'orchestre pragois du Collegium 1704, nous propose ainsi la découverte de ses œuvres exceptionnelles. Bon concert et à tout à l'heure.
Oh, Stay, stay, stay.